Vous écoutez RTL. RTL.
On refait le match.
Pascal Pro.
Bonsoir à tous pour la deuxième année consécutive et c'est déjà le début d'une tradition. Voici un On refait le match spécial Noël, une émission bilan de l'année 2017 avec un fil rouge, champagne, bûche et marron. Champagne pour les tops, bûche pour les flops et marron pour les coups de gueule autour de la table du réveillon. Philippe Sansfourche.
Bonsoir, cher ami, bonsoir à tous.
Nicolas Georgero, bonjour.
Bonsoir à tous.
Sylvain Charlet.
Bonsoir, ami, bonsoir à tous.
La team d'RTL. Éric Silvestro.
Bonsoir à tous.
On salue Christian Olivier. Nous sommes en direct. Il est 18h31. Nous ne sommes pas en vacances. Et pour vous prouver que nous ne sommes pas en vacances, avant de parler de champagne, bûche et marron, on va évidemment parler quand même de ce qui s'est passé à 13h aujourd'hui. Barcelone-Real Madrid.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Jingle bell, Damien Béchiot a le cœur enfantin, le cœur de Noël. Bonsoir Damien, et heureux de partager avec vous tous les samedis soirs jusqu'à 23h les réalisations d'Orphel le Match et du Multiplex. Barcelone-Real, est-ce que Zidane est en danger, madame, messieurs d'ailleurs?
Ça sent le sapin?
Il peut le devenir.
J'ai vu qu'il se faisait massacrer sur les réseaux sociaux. Bon, on en parlera tout à l'heure des réseaux
sociaux. S'il est éliminé en huitième.
Il y a deux mois très intéressants qui s'ouvrent effectivement jusqu'à ce huitième de finale face au Paris Saint-Germain, effectivement. Mais deux mois très intéressants de voir ce qu'il a dans le ventre pour relever un petit peu cette équipe du Real qui aujourd'hui
patine. Ah, voyez comme vous êtes ce qu'il y a dans le ventre.
Oui.
Zidane
est
prêt à l'assassiner.
Non, jamais.
Tout ce qu'il a fait.
Mais il faut y aller doucement.
On sait ce qu'il a dans le ventre depuis le temps quand même, Zidane. Arrêtez.
On l'a tous regardé ce match sur la première période. Si le Real ouvre le score, ce n'est pas un scandale. Après, il y a 0-0.
Mais c'est pas que c'est pas un scandale, Sylvain. C'est que c'est pas normal que ce ne soit pas le Real qui ouvre le score. C'est comme ça qu'il faut voir.
Le Real domine cette première période. Après, on va le critiquer. Derrière, on le critique parce que il n'a pas fait débuter Isco, il n'a pas fait débuter Asensio, et il a préféré le jeune Kovacevic dans un système qui est pas forcément le système du Real Madrid. Bon, on lui tombe dessus, mais c'est un grand classique à Madrid. Mais moi, je pense que le vrai moment clé, un peu comme pour le Paris Saint-Germain, ce sera lors du huitième de finale de Ligue des Champions.
J'ai dit que le Paris avait gagné 3-0 quand même. J'espère que je l'ai dit. Je suis même pas sûr de l'avoir dit. Alors je le dis.
Ouais. 3-0.
Le Barcelone 3-0. A gagné 3-0, ce qui veut dire qu'il y a 14 points d'écart entre Barcelone et le Real Madrid et que désormais Barcelone est quasiment champion de la Ligue.
Le Barça,
sans rentrer dans les détails, il y a 3-0, ça paraît énorme parce que c'est sur la pelouse du Real. Il y avait 1-0 et puis il y a une action qui amène pénalty et carton rouge, et après il n'y a plus de match, donc ça finit à 3-0. Mais il n'y a pas eu une domination non plus outrageuse du Barça sur la première période. Effectivement, c'est plutôt le Real. Est-ce qu'on a le droit de poser la question Karim Benzema?
Il a été hué
quand même.
Il a été hué
parce qu'il y a un problème. Et moi, Zidane, si il vient à être en danger, ce sera par le biais de Karim Benzema parce qu'il l'aura trop longtemps protégé.
Et là, il va continuer à le défendre.
Il
l'a encore dit après.
Il va dans le mur s'il continue.
Ils n'ont aucun avant-centre au Real Madrid.
tu peux pas gagner des matchs contre le Barça ou en Ligue des Champions contre les Cadors uniquement avec Cristiano Ronaldo.
Mais Zidane.
Or, Karim Benzema en ce moment n'est pas au niveau.
Tu n'aurais pas dit la même chose si Benzema avait marqué en première période, sa tête décroisée.
C'est sa seule occasion du match. Sur 90 minutes, tu peux pas être simplement une fois en avant.
Mais Philippe, s'il la met, tu ne dis pas du tout la même chose.
Il est insuffisant depuis 6 mois. Regarde ses stats. Il est insuffisant.
On va en reparler après. Zidane a déjà son excuse toute trouvée. Zidane voulait un joueur au mercato d'été. Il ne l'a pas eu. Il voulait Kylian Mbappé. Voilà. C'est ça qu'il voulait au Real Madrid. Pour Bale ou pour Benzema, parce que ce garçon peut jouer partout. On le voit au Paris Saint-Germain en équipe de France. Il ne l'a pas eu. Donc c'est Florentino Pérez qui lui rendra des comptes le jour où il devra s'expliquer.
Mais c'est même pas Benzema le problème. C'est qu'aujourd'hui, Bale, avec des blessures.
Le problème,
il n'y a pas que Benzema. C'est toute l'animation offensive du Real.
C'est un souci.
C'est un des soucis qu'a le Real Madrid. Mais c'est pas le souci du Real Madrid. Bale n'est plus au niveau en raison, là pour le coup, de méformes et de blessures. Cristiano Ronaldo, il y a eu aussi des soucis il y a quelques mois. Benzema, ok, d'accord, ça tourne moins bien. Il a 4 ou 5 buts simplement depuis le début de la saison.
Non, mais t'imagines, tu joues au Real Madrid, t'es 9, tu mets 5 buts. Non mais tu y crois à ça?
Avec un doublé contre la Pologne.
C'est logique ça.
Mais de toute façon, Benzema ne marque pas 20 buts dans une saison.
Charlie.
Ah non?
Ben donc c'est un grand classique. Et s'il termine la saison à 15 réalisations, ce sera du Benzema classique aux côtés de Ronaldo.
Ces belles années, non, a quand même été à 25.
Le Real n'est pas terrible.
Tu ne peux pas dire que le Real n'est pas terrible. Non,
le Real du premier quart d'heure aujourd'hui, le pressing qui est fait sur le Barça, c'est quand même.
C'était un Real très costaud. Moi, à la mi-temps, je me suis dit, là, je suis inquiet pour le Paris Saint-Germain. Parce que jouer ce Real-là, ils vont se faire bouger. Et après, il y a beaucoup de réalisme de la part du Barça. Pour moi, le titre, il est acquis pour le Barça. Mais je reste convaincu que cette équipe du Real monte en puissance. Elle va devoir faire une croix sur le championnat, mais attention à elle en Ligue des Champions.
Il est 18h36, vous écoutez RTL, vous êtes peut-être sur la route, vous rejoignez vos familles, les enfants sont derrière la banquette.
Crient derrière.
Non, pourquoi les enfants crieraient?
Ou parce qu'on arrive.
Ou au contraire, vous êtes seul,
c'est encore
à
loin.
Bord, tranquille, vous allez rejoindre les frères, les cousins, les sœurs, que sais-je.
Tonton, qui va écouter ses belles blagues.
Papa, de la radio, il y en a marre.
Papa, j'ai faim.
Et vous écoutez RTL, et figurez-vous que c'est une émission, on refait le match un peu spécial. C'est la deuxième année que nous la produisons, cette émission. Elle s'appelle Champagne, Bûche et Marron.
Musique. On refait le match sur RTL.
Alors ça, c'est devenu l'hymne de Noël, hein, cette chanson. Hein. On l'entend maintenant partout.
C'est qui, ça?
C'est Maria Carré.
Eh oui, il est là.
C'est l'hymne. Avant, c'était Tino Rossi quand j'étais petit. Maintenant, c'est Maria Carré. Bon,
basculé d'un coup,
champagne. Quatre champagnes, vous êtes quatre.
Ouais.
Quatre champagnes.
Quatre
par ordre alphabétique, je commence par Sylvain Charlet.
Ouais.
Votre champagne 2017.
Eh ben, c'est Zizou. Ça reste Zizou parce que Zizou, ouais. Voilà, il est critiqué aujourd'hui, mais ça manque de bulles aujourd'hui.
Normal,
vous êtes
normal.
Bien dans l'actu, en fait.
Ouais, je suis au top. Non, mais Zidane, il a quand même réalisé l'année parfaite. Il a réalisé le doublé en Ligue des Champions, deux Ligues des Champions consécutives remportées par un entraîneur. Ce n'était plus arrivé depuis le Milan de Sacchi, je crois, au début des années 90. Il a remporté 5 trophées sur son année 2017. Voilà, il a réalisé l'année quasi parfaite. Malheureusement, il y a cette deuxième partie de saison avec le Real en championnat où ça ne se passe pas forcément bien, mais moi j'ai tendance à croire que plusieurs de ces joueurs vont monter en puissance, et je le redis, sur la première période, j'ai vu un Real costaud. Malheureusement, ça n'a pas duré, mais ce Real peut continuer de faire peur dans la deuxième partie de saison, et Zizou a réalisé une très belle année 2017.
C'est un beau champagne.
Ouais.
Pas de discussion, pas de polémique, c'est l'esprit de Noël quand même ce soir.
Non, c'est un beau champagne, bon, mais on en revient au débat précédent. Je pense que c'est maintenant qu'on
qui
va voir.
Qui s'évente
dans une période plus.
Non, mais sur 2017, il n'y a rien.
Non, vous êtes gonflé quand même.
Mais non. Mais pourquoi champagne? Parce que les prochains mois diront si c'est un vrai cru 2017-2018.
Il a gagné deux fois la Ligue des Champions. Il est entraîneur du Real Madrid. Depuis deux ans, vous vous rendez compte? Il va célébrer en janvier ses deux années simplement.
Et son discours en finale de la Ligue des Champions à la mi-temps à Cardiff contre la Juve, j'ai eu la chance d'assister au match, est très important. C'est-à-dire que la Juve est à le dessus. Non, mais elle a le dessus dans cette première mi-temps. Et franchement, quand tu vois son équipe revenir, elle c'est complètement différent l'attitude de Real Madrid dans la deuxième période. Donc forcément, l'attitude de Zidane à la mi-temps a compté.
Champagne, Zidane pour Charlet. Votre champagne, Nicolas Georgerot.
Didier Deschamps.
Ah oui,
Didier Deschamps.
Là, il n'y a plus de débat. Là.
Et pourquoi il y a débat? Il n'y a pas débat. On parle toujours de l'effectif qu'il y a autour de l'équipe de France, ce potentiel dont on n'arrête pas de parler, mais on oublie un petit peu ce que fait Didier Deschamps depuis 2012, ce fil conducteur qu'il est et qu'il a imposé à l'équipe de France. Il qualifie les Bleus directement pour la Coupe du Monde. Et je trouve qu'on oublie un peu trop vite ses prédécesseurs, ce qu'il y a eu avant, et le travail qu'il réalisait depuis 2012. Et donc, je mets Didier Deschamps en champagne.
Et Coupe du Monde.
Bien sûr.
Qualification de la Coupe du Monde, quand même, 2018. Bon, c'est vrai que moi, je suis assez critique sur Deschamps parce que je suis très critique sur le jeu de l'équipe de France. Champagne, on discute.
Et donc, c'est lié à Deschamps. L'identité de jeu, c'est lié à Deschamps.
Ah ben, moi, je suis d'accord.
Alors, ce qui est très bien, moi, ce que j'apprécie,
ce sont
tous ces jeunes qui débarquent dans cette équipe de France et qu'il est en train d'intégrer dans son 11. Moi, voilà, moi, je l'attends sur la véritable identité de jeu de cette équipe de France parce que, après, dans l'histoire, c'est Hugo Lloris qui l'a rappelé la semaine dernière, 98-2000, cette équipe n'avait pas forcément une identité de jeu. La dernière fois qu'on a une vraie identité de jeu, c'était lors des années 80 avec la génération Platini. Ça, je peux l'entendre. Mais aujourd'hui, moi, je l'attends là-dessus.
Ah non, il y avait une identité de jeu en 98.
Bah non. C'est quoi?
Le mur.
C'est quoi en 98?
Il y avait un mur.
Il y a une identité de jeu.
Mais c'est quoi? Le mur.
C'est une équipe. Voilà, c'est une équipe plutôt défensive avec une arrière défensive XXL, dite à Bichente Zarzu.
Mais toutes les sélections jouent avec une
qu'il n'y a pas d'identité de.
Non, oui, pas vraiment. Toutes les sélections. Revoyez les matchs. Bon, en plus, sur l'ensemble de la compétition, elle change de schéma de jeu. C'était pas une identité qui était si claire et nette que
bah
ça.
Oui, hein. Terminons donc sur le champagne de Deschamps, contesté ou pas.
Mais non, Eric Silvestro. Il qualifie la France pour la Coupe du Monde, il fait son boulot, il n'y a pas à le contester.
Philippe Sansfourche.
Non, c'est juste que je trouve ça assez gonflé d'associer champagne à Deschamps, dans la mesure où on n'a pas arrêté toute l'année de dire que c'était loin d'être le football champagne.
Champagne pour le résultat.
Mais c'est vrai que...
L'efficacité.
C'est plutôt... Voilà, c'est un bon cru sur la longueur qui vieillit bien.
C'est un classique qui marche toujours, le champagne.
Voilà, Didier Deschamps, c'est le ciment de cette équipe de France. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il est avec Joachim Löw, le sélectionneur, depuis le plus longtemps en place, même s'il est loin de Joachim Löw. Mais on sent qu'il y a quelque chose d'ancré et qu'on arrive au bout, peut-être, d'une filière là, qui va nous emmener vers quelque chose de fort sur la Coupe du Monde.
Champagne, bûche et marron, c'est notre concept dont on refait le match ce soir. On refait l'année 2017, on va marquer une page de publicité. Nous n'avons passé que deux champagnes. Il reste le champagne de Philippe Sansfourche, le champagne d'Eric Silvestro, je le devine, évidemment. Les bûches.
On garde le meilleur pour la fin, vous avez raison.
Après, ce seront les bûches. C'est par ordre alphabétique, j'ai dit.
Ouais, bah, le meilleur pour la fin. La Lazare fait bien les choses.
Et les marrons, parce qu'il y a des marrons. Les marrons, c'est des coups de gueule. A tout de suite.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Petit papa.
Voilà.
Toute votre enfance.
Tino Rossi. Vous savez que c'était une immense star, Tino Rossi, dans les années 30-40. Vous n'imaginez pas. Enfin bon, je sais pas.
S'il avait pu chanter avec Marie Carré.
Pascal Pro a les lunettes du Père Noël.
Mais j'allais dire, exactement le dire. C'est que nous avons un petit Père Noël avec du blanc et du rouge.
Damien, on a entendu le bruitage tout à l'heure champagne. J'aimerais que Damien nous fasse entendre le bruitage que nous avions pendant le multiplex mercredi soir avec Christian Olivier. À chaque fois qu'il y avait un but, il y avait oh, 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 oh. Je l'ai bien fait. Bon, le champagne de Philippe Sansfourche.
Neymar.
Oh.
Évidemment, Neymar.
D'une facilité.
Alors, c'est quoi, Neymar le joueur ou Neymar le joueur ou Neymar le transfert?
Alors, déjà, parce que c'est pas donné. Comme le champagne. 222 patates, c'est pas du mousseau. C'est du.
C'est bien amené. Très bien présenté comme ça.
Non, mais ce que vous aimez là-dedans, c'est le transfert, qu'il soit en Ligue 1.
Là, on fait des émissions de fin d'année, on ferme les yeux, on fait des vœux pour l'année suivante, on achète des petits tickets à gratter. Bon, je veux dire, le football français a touché le gros lot quand même, a touché le pactole.
Oui, c'est ça.
C'est l'un des trois meilleurs joueurs du monde, il
nous
est en Ligue
1.
D'accord,
ça c'est bien.
C'était inespéré.
Okay.
Si on en avait parlé il y a un an, personne n'y aurait cru. C'était inespéré.
C'est bien.
Il est arrivé, il a apporté une espèce d'enthousiasme, quelque chose sur la Ligue 1. Sur les premières semaines, on avait l'impression que c'était... le championnat qu'il fallait voir, quoi, que le monde entier voulait regarder. Il nous a offert des gestes, quelque chose pendant les 3-4 premières semaines qui étaient absolument fantastiques, qui nous ont donné l'eau à la bouche. Certes, derrière, il y a eu quelques matchs parfois qui ont été moins aboutis, mais on a vu ce qu'il était capable de donner et l'élan qu'il était capable d'apporter aux joueurs qui l'accompagnent. Si on se place, je ne suis pas un fan des statistiques, mais si on regarde simplement en chiffres sur ses premiers matchs, il est impliqué sur 30 buts, c'est 17 buts, 13 passes décisives quand vous Ligue 1
champagne, nous
et, Ligue des et Ligue des Champions réunis. Et quand on sait que le meilleur reste à venir...
Moi, ça, c'est vous qui dites le meilleur qui reste à venir. Ça, c'est pareil.
C'est
on parle de Zidane, on parle de Deschamps. Neymar, c'est pareil. Sur les prochains mois, vous faites quoi si vous sortez en 8e, là, votre champagne, vous le sortez au mois de mars.
Ce sera champagne éventé, là aussi. Vous voulez contester Neymar?
Bon, je suis en attente sur Neymar. Moi, comme d'autres joueurs parisiens, il m'a déçu face au Bayern. Voilà, on attendait sur un grand match. Il a été éteint. À aucun moment, il n'a porté son équipe. Alors, en effet, il m'a fait rêver tout le début de la saison. Et j'ai adoré savoir qu'il arrivait en Ligue 1. On a pris beaucoup de plaisir. Moi, j'ai commenté un ou deux matchs. C'était premier au Parc des Princes. C'était un véritable régal. Mais je l'attends dans les grands matchs. S'il veut être l'égal de Messi et de Ronaldo, c'est face au Real qu'il faudra briller comme il l'a fait en championnat, face à Toulouse, face à Bordeaux et face aux autres.
Dernier champagne, celui d'Eric Silvestro. Et ça ne surprendra personne, Eric, puisque je rappelle que vous êtes citoyen monégasque. Mais vous avez choisi.
Il faut un peu d'objectivité autour de cette table.
C'est vrai.
Donc le champagne 2017, le millésime, il n'y a pas besoin de payer 222 millions d'euros pour boire du champagne. Vous allez en principauté, il y en a plein. Et surtout, on a eu un Monaco champion de France absolument exceptionnel. 95 points, 107 buts marqués, 8e titre, ça faisait 17 ans qu'on attendait ça. Plus une demi-finale de Ligue des Champions, plus l'éclosion de Kylian Mbappé qui va sans doute gagner le Ballon d'Or. Je le dis ici, j'ai pas peur de le dire, certains le disent déjà, avant Neymar.
Je suis d'accord avec vous. Donc, la seule chose, c'est que c'est un champagne 2017 et la deuxième partie de l'année 2017 pour Monaco est une catastrophe, et notamment la gestion de ce titre. On peut le dire.
Quand vous faites 300 millions de bénéfices, je sais pas si c'est une catastrophe, moi, personnellement. Mais...
Oui, mais vous avez perdu tous vos actifs.
Monaco est combien du championnat? Dites-moi.
Éliminé de la Ligue des
Monaco
Champions.
Monaco est combien en championnat?
Ça veut rien
Monaco
dire.
Est deuxième du championnat. Monaco
reconstruit une équipe. Je ne veux pas gâcher votre plaisir, Monaco, mais vous voyez.
Vous êtes déjà en train de profiter de cette année 2017. Vous avez un club qui a marqué 107 buts.
Je suis d'accord, je suis un peu déçu de la deuxième partie 2017, j'ai le droit de le dire.
Le projet était annoncé, il n'y a pas de surprise.
Monaco, c'est d'autant plus intense que c'est bref, en fait. C'est pour ça que c'est bien. C'est d'autant plus intense que c'est bref.
Oui, mais Nicolas, c'est pas vous. Je vais apprendre qu'il vaut mieux un plaisir bref que pas de plaisir du tout.
Ils ont quand même atteint des objectifs totalement inattendus. Ils sont devenus champions de France et ils ont atteint une demi-finale de Ligue des Champions. Donc oui, ils ont vendu pour plus de 300 millions cet été. Je pense qu'il part du principe qu'on repart sur un cycle de 2 ou 3 ans et peut-être que dans 2 ou 3 ans, on refera un quart de finale de Ligue des Champions et qu'on bougera le Paris Saint-Germain.
On s'aborde le coefficient UEFA.
Non, mais c'est triste,
Philippe. On envoie des clubs en Ligue des Champions
pour qu'ils fassent
de la figuration.
Mais les dirigeants français s'en moquent de l'indice.
De te dire que c'est pas le football que j'aime.
Tu as raison, mais c'est un projet annoncé. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de mensonge. C'était ce qui était annoncé.
Champagne, bûche et marron. Champagne, bûche et marron pendant une demi-heure. Vous avez donné tous les quatre votre champagne, Zidane pour Charlet, Deschamps pour Georges Rowe, Neymar pour Sanfourche, l'AS Monaco pour Silvestro. Nous passons aux bûches. Les bûches, c'est les flops.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Ça, c'est formidable. C'est les années 80, ça.
Ouais.
Qui chantait ça? Wham?
C'est Wham, ça.
C'est bien. La bûche, et on va commencer une nouvelle fois par ordre alphabétique, Sylvain Charlet, quelle est votre bûche?
La vidéo.
C'est-à-dire?
Je veux pas de vidéo dans le foot. Je ne veux pas de vidéo dans le foot. Déjà,
c'est pour
la
faire plaisir à Christian Olivier.
Ah non,
c'est
non,
sincère,
non, non. En fait,
position.
j'étais partagé encore il y a quelques semaines de cela, et dernièrement lors d'Italie-Suède en barrage et lors de nombreuses émissions sur cette antenne Soir de Ligue 1 le vendredi et le dimanche, on se retrouve, nous, en studio, à regarder les images, à avoir 3 ou 4 ralentis, comme je le serais si j'étais le monsieur vidéo d'un stade. Et nous ne sommes pas d'accord entre nous. J'ai encore eu l'exemple cet après-midi, lors de Real-Barça. Centre d'un Madrilène dans la surface de réparation, je crois que c'est Busquets qui défend, les mains contre le corps, mais il a un bras décollé. Et les avis étaient différents. Moi, en revoyant les images, pour moi, il y a main volontaire. Pour les commentateurs de beIN, pour ne pas les citer, il n'y avait pas pénalty. Voilà. On était en total désaccord.
Si moi
je suis à la vidéo, il y a pénalty. Si les commentateurs de beIN sont à la vidéo, il n'y a pas pénalty. Qu'est-ce qu'on fait? On aura autant de polémiques pour moi avec la vidéo.
Deux choses. On a beaucoup parlé de l'assistance vidéo à l'arbitrage ces derniers jours avec l'instauration en Ligue 1 et de cette goal line technologie qui ne marche pas. Il faut les séparer pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, la goal line technologie, quand ça fonctionnera correctement, elle sera vraiment utile.
Ça, on est d'accord.
Et à titre personnel, je suis pour. En revanche, l'assistance vidéo pour l'arbitrage, j'y suis opposé.
Deuxième bûche, celle de Nicolas Georgerot. Justement, vous aviez la parole.
La remontada. Un petit mot espagnol qui est revenu un petit peu à nos oreilles au mois de mars. La remontada, parce que c'est l'événement de ces 10 dernières années, tout simplement. On va au-delà de 2017. C'est une faute professionnelle du Paris Saint-Germain.
Rien à dire, Philippe Sanfourche, vous qui suivez le PSG. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est une faute professionnelle qui aurait dû...
Vous auriez vu le visage, Pascal. Vous auriez vu le visage de mon voisin de droite au moment de commenter ce but qui assassine le PSG.
Vous étiez ensemble tous les deux à Barcelone?
Tout à fait. Et il était tout perdu.
À ce moment-là, j'étais tout seul.
On remarque une page de publicité. Vous nous donnerez votre bûche, Philippe Sanfourche. Vous nous donnerez également votre bûche, Eric Silvestro, et après ce seront les marrons. Alors les marrons, c'est des coups de gueule. Hein. C'est pas la même chose que les flops. A tout de suite.
RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL.
Pascal Pro.
Merry Christmas, baby. Ah. En
ambiance Noël, bien évidemment. Nous sommes en direct, il est 18h50, vous nous écoutez, on refait le match spécial fin d'année avec Nicolas Georgerot, avec Sylvain Charlet, avec Eric Silvestro, avec Philippe Sanfourche. Champagne, bûche et marron. Champagne, c'est les coups de cœur, bûche, c'est les flops, et marron, ce sera les coups de gueule. L'arbitrage vidéo, c'était la première bûche de Charlet. La remontada, c'était la deuxième bûche de Georgerot. Bûche pour Sanfourche.
Ah bah alors là, je suis désolé, je ne vais pas me faire un ami parce qu'on en a parlé il y a deux minutes, mais pour moi, une des plus belles bûches, c'est la bûche de Monaco à l'intersaison. Alors, je vais y associer un autre club, je vais associer Lille. Parce qu'en fait, le trait commun, c'est ce fameux trading joueur. Vous savez, en fait, quand on veut faire sérieux, on anglicise un petit peu, on essaie de rajouter. Bon, ça veut dire quoi, en gros? Ça veut dire on essaye d'intellectualiser quelque chose qui est de dire on vire tous les cadres, on prend que des jeunes, on achète des joueurs qui sont prometteurs, et puis on va essayer de les faire monter en puissance, et puis on va les vendre très cher l'année suivante. Alors parfois ça marche quand c'est accompagné d'un projet sportif. Quand il n'y a pas de projet sportif, comme ça a été le cas à Monaco à l'intersaison, et comme ça l'a été, mais de manière totalement ébouriffée à Lille, avec multiplication des dirigeants, on ne sait pas dans quel sens on va, puis on met Bielsa au milieu d'un directeur sportif, d'un ancien agent de joueur, d'un propriétaire un peu véreux qui s'est planté en Formule 1, et bien ça donne ça. Voilà.
C'est la bûche de Philippe Sanfourche, la bûche d'Éric Silvestro.
C'est l'absence de l'Italie à la Coupe du Monde.
Ah, alors 2018. Je suis d'accord.
Pour moi, c'est
moi,
la bûche
beaucoup,
de l'année.
Ça me fait beaucoup de peine.
Ah non, mais quoi,
oui, ça me fait beaucoup de peine quand même.
Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est totalement mérité. L'Italie va droit dans le mur depuis des années.
Une Coupe du Monde sans Italie,
c'est
triste.
Eh bien, ça y est, ils ont pris le mur. Ventura a fait n'importe quoi, ils n'ont aucun talent offensif. Ça fait quand même 60 ans que l'Italie n'avait pas raté la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les trois quarts des Italiens ne savent pas ce que c'est une Coupe du Monde sans l'Italie. D'ailleurs, ils ne la regarderont même pas.
On a que ce qu'on mérite.
Il est 18h52, nous passons à la dernière partie. Avec les marrons.
On refait le match sur RTL.
Très belle chanson de Noël. Jésus est né en Provence.
On est en 2017, hein, là.
Bah, oui, mais Jésus est né en Provence quand même.
Il n'est pas né en 2017.
Il n'est pas né en 2017, ce qui nous permet de saluer toute la Provence et tout le sud de la France. Les marrons, ce sont donc les coups de gueule. Les marrons et le marron de Sylvain Charlet, qui commence par ordre alphabétique.
Mais moi, c'est la communication de Karim Benzema. Alors, je ne sais pas quel est le fond du problème avec Didier Deschamps, mais tout ce que je sais, c'est que Karim Benzema est fier, son entourage le conseille très très mal. Moi, j'attendais de lui lors de ses dernières interviews qu'il fasse son mea culpa, qu'il dise « Désolé, coach, voilà, je me suis peut-être trompé, moi aussi. Je reviens vers vous, je veux disputer cette Coupe du Monde et je suis prêt à mettre de l'eau dans mon vin. » Pour moi, il ne met pas d'eau dans son vin et à aucun moment il ne fait son mea culpa. Et ce qui m'a le plus agacé, c'est cet été quand il a dit « Mais en gros, mais j'attends le coup de téléphone de Deschamps. Mais mon ami, ce n'est pas à Deschamps de t'appeler.
Il
appelle le coach. »
Il est revenu un petit peu quand même sur Canal. Il a fait tout un grand documentaire. C'était un peu plus nuancé que ce que vous dites.
Et dedans, à aucun moment, il ne lâche du lest. Il est trop fier et ça le perdra.
Vous êtes d'accord ou pas?
C'est même une opération calculée de son entourage pour essayer de communiquer, comme par hasard, au moment où il y a des matchs importants de l'équipe de France, pour déstabiliser Didier Deschamps, pour faire en sorte que Didier Deschamps échoue et qu'il y ait un autre sélectionneur qui puisse éventuellement prendre
Benzema. Eh bien, nous, d'arrêter d'en parler. Parce qu'on relance à chaque fois la machine, Silvestro. On remet à chaque fois de l'huile sur le feu. Laissons-le où il est, Karim Benzema, il fait du bien au Real Madrid et pas à l'équipe de France. Et c'est
encore
comme ça.
Pas certain.
Nicolas Georgerot, quel est votre marron 2017?
La Coupe du Monde à 48 nations, décidée donc en 2017 pour le début de la Coupe du Monde 2026, parce que c'est une hérésie et ça n'a été décidé que pour des raisons économiques et électoralistes de Gianni Infantino.
Moi, je suis d'accord avec vous.
Et c'est une erreur magistrale. La Coupe du Monde, il y a une idée d'excellence.
Trop de nations.
Et il y a trop de nations.
Trop de nations. Vous êtes d'accord?
Ah oui, bon, on l'a vu déjà à l'Euro. Hein. On a passé une première partie de compétition avec
trop
des
matchs. Trop de foot. Dilué le niveau
trop
du
foot. Tu le foot.
Sauf si c'est à élimination directe, mais beaucoup plus rapidement.
Mais non, mais c'est pas possible.
Mais
à ce
non, mais vous n'allez pas faire une préparation. Vous n'allez pas demander à des sélectionneurs, à des fédérations de s'organiser pour faire des préparations d'un mois pour aller jouer juste deux matchs quand ce sera le cas en 2026.
Je dis simplement, ça ne me dérange pas si on enlève les phases de poules qui emmerdent tout le monde et qu'on attend juste la
fin. Dire qui ennuie tout le monde.
Oui, c'est mieux en français. Pour le coup, dans le milieu du foot, je peux vous le dire comme ça, ça ne me dérange pas.
Envoyez les équipes, envoyez les supporters juste pour
les
un match. Et puis
on n'est pas là pour faire des voyages, on est là pour jouer une Coupe du Monde de foot. Élimination directe, tout de suite au pied du mur.
Chaud les marrons. Philippe Sanfourche, quel est votre marron 2017?
Alors moi, c'est le Conseil National de l'Éthique.
Énorme coup de gueule. Hein,
ça franchement, voilà. Tout le monde s'en fiche. C'est tout ce que vous avez retenu, vous donnez.
Non, parce non, que pour moi, rien que le concept, il faut être nostalgique de l'Allemagne de l'Est des années 60 pour avoir envie d'avoir affaire à des polices comme ça, de la pensée.
Vous n'avez pas l'éthique.
Quand le Conseil national de l'éthique décide de saisir la commission de discipline uniquement parce qu'il y a eu une banderole qui fait référence.
Mais c'est quoi le Conseil national de l'éthique? Ceux qui nous écoutent ne savent pas.
Vous avez 7-8 personnes. Vous avez par exemple un monsieur qui est très respectable, comme Pascal Boniface, qui fait partie du Conseil national de l'éthique.
Du football.
Et donc ce monsieur, avec d'autres, avec des anciens joueurs ou arbitres professionnels, décide de ce qu'il faut penser ou pas dans le football, de ce qui est bien à dire ou pas.
Aucune influence, on s'en fiche.
Si vous avez des amendes, vous avez des gens qui sont suspendus.
Oui, mais il faut quand même quelque chose. Les propos de René Ruelo. Donc
enfin, vous êtes.
Je ne parle pas de ça. Moi, par exemple, la banderole des Verts avant le derby. Je ne parle pas de ce qui s'est passé à la fin, c'est autre chose. Vous avez une banderole qui fait référence à Lyon, aux Lumières, qui disent ce soir pas de cinéma, on a la haine. Rien que parce qu'il y a le mot haine, le Conseil national de l'éthique décide de s'auto-saisir.
Oui.
Alors que c'est juste une blague avec le nom d'un film, la haine. Enfin, ça, on va où, quoi.
Enfin, je vous trouve très politiquement correct sur les marrons, parce que vous auriez pu parler des supporters qui sont insupportables pour le coup, parfois, et des ultras.
Mais s'ils
ne
sont
pas
là, vous n'êtes pas là, on n'est pas là, on ne fait pas une émission avec
ça,
des marrons.
Pas, alors, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Les ultras, les supporters, vous avez raison, les ultras, non. On peut. Le Paris Saint-Germain a été pendant 5 ans sans ultras. Et le Paris Saint-Germain a joué. Hein.
Ouais.
Arrêtez.
Et n'a pas gagné ses matchs importants.
Non, ne dites pas ça parce que voilà. Et la violence dans les stades, on peut aussi.
C'est autre chose. La violence est condamnable. La violence est condamnable. La passion et l'essence du foot.
Les marrons.
Moi, ce sont les réseaux sociaux.
Le dernier marron.
Ce sont les réseaux sociaux et les joueurs de foot. C'est-à-dire le Conseil national de l'éthique n'a aucune influence. En revanche, les réseaux sociaux, oui, parce qu'il y a des joueurs de foot qui passent plus de temps à jouer sur les réseaux sociaux qu'à jouer au foot.
Mais qui ?
Et moi, ça, un Paul Pogba, par exemple, un Patrice Evra. Alors, Patrice Evra, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Sa carrière est sur les réseaux sociaux. Mais Paul Pogba, par exemple, j'aimerais bien qu'il se concentre sur son football et un peu moins sur ses danses débiles qu'on voit sur son compte Instagram ou son compte Twitter. Antoine Griezmann, qui était un peu à l'abri de ça.
Patrice Evra aussi.
Non, mais vous pouvez remettre un Tino Rossi pour Alex Silvestro parce qu'en fait, il n'a pas compris qu'on allait changer de siècle.
Mais non, mais à un moment, Tino. Antoine Griezmann, qui était un peu à l'abri de ça, eh bien. Pour les questions de sponsors, pour les questions de communication, il est obligé d'y venir. Ça commence à lui créer des problèmes et il commence à être moins efficace sur le terrain. Les joueurs de foot sont là pour jouer au foot, pas pour nous amuser sur la galerie, sur les réseaux sociaux.
C'était votre
marron. Vous en prenez au tuyau. Prenez-vous-en à ce qu'il y a dans le tuyau. Les réseaux sociaux, ça peut être un formidable tuyau pour véhiculer des choses.
Oui.
Simplement, il faut se creuser la tête et faire un peu le tri dans ce qu'on communique.
Mais les joueurs de foot, aujourd'hui, ils font plus de la com que du foot. Donc moi,
merci à tous.
C'est fini déjà ?
Oh, c'est quasiment fini, oui. On va remercier tous ceux qui passent par On refait le match cette année et qui ont fait qu'on est. En tête, leader, donc faut le dire, puisqu'on ça marche bien. On remercie évidemment
pas de trading consultant.
On remercie évidemment Christian Olivier, qui est le grand chef et qui nous fait confiance. Merci à vous vraiment ce soir. Je rappelle vos 4 champagnes, Zidane, Deschamps, Neymar, Monaco, vos 4 bûches, l'arbitrage vidéo, la remontada, Lille et Monaco, l'Italie, et vos 4 marrons, la com de Benzema, la Coupe du Monde à 48, le Conseil national de l'éthique, les réseaux sociaux dans le foot. Merci à tous ceux qui nous écoutent, parce que sans eux, pour le coup, nous ne serions pas là.
C'est donc une grande famille.
Mais en tout cas, tous les auditeurs d'RTL, on
joyeux
les salue.
Noël,
on leur souhaite un joyeux Noël, comme on souhaite un joyeux Noël à toutes les équipes techniques d'RTL et notamment à Damien, parce que Damien, il est là depuis le 15 août. Hein. Il fait toutes les émissions, Damien. Multiplex avec Eric au départ de la saison et puis avec Christian à partir du mois de septembre. On refait le match également. Donc bravo à lui, bravo à Hugo Gandon qui l'assiste ce soir. Alice Moreno est dans le studio.
Vous avez emmené le champagne, Pascal ?
Elle est couverte. Bonsoir Alice, vous avez l'écharpe.
Oui.
Vous avez raison parce qu'il fait froid. À tout de suite pour le flash. Joyeuses fêtes de fin d'année. Bonnes vacances si vous en prenez. Et à tout de suite donc pour les infos.